les parlementaires autour d'eux, ce qui prendrait 35 ans et coûterait près de 7 milliards d'euros. Alors bien que ce soit la solution la plus chère, c'est celle qui avait les faveurs des plus traditionnalistes, principalement des députés conservateurs qui estiment que la liste des dangers est très exagérée et qui refusent surtout de quitter, même provisoirement, un bâtiment qui est pour eux un symbole fort de la démocratie britannique.
Et finalement, les communes et les lords ont opté donc pour un déménagement complet. Qu'est-ce que cela implique?
Ben ça veut dire que le Parlement va rester effectivement inoccupé pendant 6 ans. Les députés seront relogés dans un bâtiment tout proche, sur Whitehall, le quartier des ministères. Les lords travailleront, eux, dans le centre de conférence Elizabeth II, là aussi à 2 pas du Parlement, en face de l'abbaye de Westminster. Alors c'est vrai que ça ne va pas être simple de déménager quelques 8000 personnes et de fermer un site emblématique qui attire 1 million de visiteurs chaque année. Mais de toute façon, le déménagement ne se fera pas avant 2025. Il ne sera que momentané et beaucoup pensent qu'il est grand temps de mettre un terme à une ère de rafistolage qui ne suffit plus. C'est d'ailleurs pour les mêmes raisons que la tour de Big Ben est actuellement en travaux et que pendant 4 ans, on ne va entendre sonner la cloche que lors de rares occasions.
Muriel Delcroix en direct de Londres ce matin pour le Bonjour l'Europe. À suivre, l'invité de RFI Matin qui connaît justement bien ce palais de Westminster.
RFI Matin, Michael Ponge.
Mais à 7h50, les titres de ce matin, Emmanuel Macron sous la pression en visitant Corse. Le chef de l'État doit prononcer un discours en milieu de journée devant plusieurs centaines de personnes rassemblées à Bastia. Discours sur l'avenir de l'île. Les deux hommes forts, l'autonomiste Gilles Simeoni qui dirige l'exécutif Corse et l'indépendantiste Jean-Guy Talamoni à la tête de l'Assemblée de Corse seront présents. On ira à Bastia dans le prochain journal. À 8h également, reportage aux côtés du SAMU social à Paris. Alors que la neige n'en finit plus de tomber, les secours viennent en aide aux sans-abri. 25 départements sont toujours en alerte. Et puis à suivre aussi un témoignage rare d'un habitant d'Afrine en Syrie, l'enclave kurde pilonnée par la Turquie. Pendant que le régime de Damas bombarde la route orientale, l'ONU réclame une trêve d'un mois dans tout le pays pour aider les populations. L'invité de RFI Matin, Frédéric Rivière, vous recevez aujourd'hui Denis McShane, ancien ministre travailliste des Affaires européennes du Royaume-Uni.
Bonjour Denis McShane.
Bonjour, bonjour Frédéric.
Une nouvelle séance de discussion entre l'Union européenne et le Royaume-Uni a lieu depuis hier et jusqu'à vendredi sur le Brexit. Le négociateur en chef de l'Union européenne, Michel Barnier, était à Londres lundi. Il a demandé au gouvernement de Theresa May de faire un choix sur l'après-Brexit. Il n'y a plus une minute à perdre, a-t-il dit. Est-ce que vous comprenez que Michel Barnier exprime une forme d'impatience ?
Oui, dans le sens qu'il y a 739 accords séparés, des traités de commerce, l'aviation, tous le droit des Britanniques vivant en Espagne, en France. Et pour le moment, le gouvernement britannique n'a pas proposé quelque chose de spécifique. Madame May organise des réunions de ses conseils des ministres cette semaine parce que le Parti conservateur est divisé en deux, entre les réalistes qui acceptent une période de transition et les ultras qui veulent une amputation forte avec l'Union européenne à partir de fin mars l'année prochaine.
Donc ce sont les divisions politiques internes qui, pour l'instant, retardent la prise de décision sur le type de relation que veut le Royaume-Uni avec l'Union européenne à l'avenir.
Exact. Les acteurs économiques, les business, les investisseurs, M. Carlos Ghosn avec son énorme usine de Nissan dans le nord-est du pays, il arrache les cheveux parce qu'il ne sait pas. Est-ce que l'Angleterre va être dans l'union douanière, donc pas les contrôles des douanes en arrivant à Calais? Est-ce que l'Angleterre va, le Royaume-Uni va rester dans le marché unique, donc on accepte les mêmes règlements que les boîtes en France, en Allemagne, ou pas? Et l'Angleterre refuse pour le moment, le gouvernement de Madame May refuse de dire clairement, noir sur blanc, nous voilà ce que voulons, ce que nous acceptons, et aussi les dangers qu'on est prêt à accepter si on se coupe très très fort et dramatiquement de le reste de l'Europe.
Sur cette question de l'union douanière, lundi, Theresa May semble justement avoir fait un pas en direction de ce qu'on appelle les hard Brexiteurs, ce partisan du hard Brexit. Le Royaume-Uni, a-t-elle dit, ne restera ni dans l'union douanière européenne, ni dans une union douanière avec l'Union européenne, quelle qu'elle soit. Donc, sur ce point-là, elle semble avoir tranché pour la version dure.
Disons, elle a dit la même chose exactement. Il y a un an dans un discours qui s'appelle le discours de Lancaster House, c'est tout près de Buckingham Palace. Elle a répété, j'ai examiné les textes avec une loupe. Elle a dit, il y a un an, et puis à Florence, au mois de septembre, non, nous quittons l'union douanière, le marché unique. Là, la grande annonce avec toute la pompe lundi était plutôt pour donner de la viande rouge assez ultra dure, anti-européen, et calmer les titres du week-end qui disaient, ah, Madame May doit partir. Donc, mais ça, par exemple, en Irlande, parler de quitter l'union douanière, imposer des contrôles frontières en Irlande, dans le nord du pays, entre la partie qui est britannique et le reste du pays qui est irlandaise, c'est absolument catastrophique. Ça remet en cause tous les accords du vendredi saint, il y a 140, tous garantis sous l'égide de l'Union européenne. Donc pour Dublin, ça c'est absolument le retour à la division du pays et tous les dangers qui est impliqués quand on réimpose cette division.
Face à cette hypothèse de l'abandon de toute union douanière, Michel Barnier a aussitôt répondu que cela aurait des conséquences, que ça impliquerait, a-t-il dit, d'inévitables barrières douanières sur les biens et les services. Vous redoutez les conséquences économiques qu'aurait une décision comme celle-là?
Oh, bien sûr, il y a peut-être 4 millions de camions, de camionnettes, des voitures qui passent à travers simplement Calais tous les ans. Et avoir les contrôles, même s'ils sont pas tous les voitures pour tous les camions, mais des énormes horaires là-bas, des dédouanements, ça va ralentir énormément le commerce entre la France et l'Angleterre. Mais le business, il n'y a pas un seul compagnie qui cherche à échapper à l'union douanière, mais il y a un poignet, c'est pas la majorité des députés Tory, à mon avis, mais il y a une fronde très très dure, passionnément anti-européen, qui insiste que Madame May doit suivre leur position très dure, sinon ils menacent de voter contre elle, elle n'a pas majorité, donc on est un peu dans la 4e République ici, il n'y a pas d'autorité gouvernementale, le Labour est hors de jeu et il n'y a pas une ligne à suivre, il n'y a pas de leadership.
Le gouvernement a fait réaliser des études sur les conséquences économiques du Brexit, des études en principe confidentielles, mais dont quelques éléments ont été révélés par la presse. Le Brexit coûterait entre 5% et 8% de croissance d'ici à 15 ans, en raison donc de la sortie du marché unique, selon le modèle choisi, donc entre 5 et 8%. C'est l'hypothèse que retiennent aujourd'hui les gens qui analysent la situation.
Oui, tous les autres, les ministres, les économistes syriens, il y a toujours un ou deux, normalement âgés de 80 ans, qui insistent, ah non, le Brexit c'est le paradis et le lift-off pour l'économie britannique, mais non, les autres pays, la Chine, les États-Unis ont déjà annoncé, ils veulent dumper toutes ces bœufs, sa viande, bourrée avec, farcie avec les hormones sur les rayons de supermarché ici en Angleterre. Non, c'est très curieux. Première fois pendant 3 siècles, le Parti conservateur, qui est le parti de business, d'enrichissez-vous, si vous voulez, a décidé, ou le fronde, et Madame May qui refuse de faire face à cette fronde, a décidé, non, mieux vaut une Angleterre pauvre, mais pur.
Alors, il y a un nouveau parti qui va voir le jour la semaine prochaine, Renew, le renouveau en français. Ses méthodes et son positionnement politique sont, de manière d'ailleurs totalement assumée, les mêmes que le mouvement En Marche lancé par Emmanuel Macron avec le succès qu'on connaît. Renew est très clairement anti-Brexit et rêve de se trouver en situation d'organiser un nouveau référendum pour que le Royaume-Uni reste dans l'Union européenne. Est-ce que c'est un scénario qui vous paraît crédible?
Disons, si on élit un président, oui, c'est possible, mais non. Et il y a le Parlement britannique est élu siège circonscription après circonscription. Donc, je ne crois pas que le lancement de nouveaux partis, ça fait beaucoup de bruit dans les salons de Londres, mais une fois vous êtes en dehors de Londres, ça n'existe à peine pas. Et sur le deuxième référendum, au nouveau référendum, s'il y avait assez de députés pour voter une loi pour organiser un tel référendum, il y a assez de députés pour prolonger, suspendre, même annuler le Brexit. Et donc, tous mes contacts avec mes amis, mes anciens amis Tory et Labour, je ne tombe sur un qui disait qu'une vote à la Chambre des communes pour un nouveau référendum est probable. Donc, sauf s'il y a un énorme changement d'opinion publique, pour le moment, l'opinion publique reste où il était en juin 2016. Légèrement maintenant contre le Brexit, mais c'est au lieu de 52-48 en juin 2016, c'est maintenant 51-49 contre le Brexit. Il n'y a pas ce changement massif nécessaire. C'est comme aller en France en 2006, en demandant aux Français allez, votez votre référendum sur la Constitution européenne.
Merci Denis McShane. Bonne journée.
Denis McShane, auteur de Brexit, No Exit, Why in the End Britain Won't Leave Europe, aux éditions IB Tories. Interview à retrouver très vite sur RFI.fr. Ne bougez pas, dans 5 secondes, 8 heures, le journal avec Catherine Potet sur Radio France Internationale. Merci de votre fidélité.
Merci d'écouter RFI, les 8 heures à Paris, 7 heures en temps universel. Catherine Potet.